Juliette Rangeval.
Bonjour, bonne année à toutes, à tous. Quoi de mieux pour regarder l'avenir que de contempler notre passé lointain? On en retrouve encore des traces, comme en 1991, dans les Alpes du Haut-Adige, tout au nord de l'Italie. Cet homme retrouvé congelé, un hibernatus mort il y a 5300 ans, presque parfaitement conservé depuis le néolithique. On l'a surnommé Ötzi. Depuis 20 ans, sa momie, exposée au petit musée archéologique du Haut-Adige, attire les foules. Plus de 5 millions de visiteurs. Et parmi eux, Céline Béal, qui s'est demandé pourquoi l'homme sorti de la glace fascine tant.
Au musée d'archéologie du Haut-Adige, les visiteurs en apprennent beaucoup sur la momie Ötzi et sa découverte par hasard dans un glacier il y a 27 ans. C'était un événement. Non seulement le corps de cet homme de l'âge du cuivre était presque parfaitement conservé, y compris sa peau couverte de mystérieux tatouages, mais avec lui, tout son équipement. Dans la glace, tout a bien résisté au passage de 5300 ans. Si bien que les visiteurs du musée peuvent aujourd'hui observer de près ses vêtements en cuir, son arc, son sac à dos, ses chaussures, chaque élément frappe par sa ressemblance avec nos objets modernes. L'exposition présente également les recherches archéologiques et biologiques dont fait l'objet notre ancêtre. Enfin, la momie elle-même est visible à la fin de la visite, pour ceux qui le souhaitent. Le corps nu est allongé dans une chambre froide, les curieux le contemplent à travers une petite fenêtre. Deux visiteurs allemands, Kurt et Birgit Stanger, viennent de le faire.
J'éprouve un sentiment de recueillement. On est devant lui et on sait le temps qu'a passé cette momie dans la glace pour être finalement retrouvée par hasard. Et là, on l'a pour de vrai devant soi. C'est un sentiment sublime.
C'est quand même un sentiment bizarre parce que c'est aussi un cadavre, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier. Il est certes cryogénisé, mais c'est un mort. Je ne sais pas, moi, si ça me plairait d'être allongé là et que tout le monde me regarde.
L'hibernatus des Alpes est la momie la plus exagérée du monde, par les touristes, mais surtout par toutes sortes de scientifiques. Radiographie, scanner, biopsie, ils analysent tout ce qu'ils peuvent. Il y a quelques années, une équipe internationale a même pu déchiffrer son ADN.
Voilà pourquoi nous en savons beaucoup sur cet homme.
Andreas Putzer, archéologue.
Il avait dans les 45 ans au moment de sa mort. Nous savons comment il est décédé. Il a été assassiné par un tir de flèche. Ça s'est passé à l'endroit où il a été trouvé, dans la commune de Senales, à environ 3200 mètres d'altitude. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est ce que cet homme venait faire là-haut.
La découverte très médiatisée de la momie en 1991 a contribué à la vocation d'Andreas Putzer, qui s'est spécialisé depuis dans l'archéologie de haute montagne. Aujourd'hui, il la trouve toujours aussi fascinante. Mais cette fascination n'est pas réservée qu'aux spécialistes. Selon lui, c'est parce que ce corps a conservé une apparence humaine, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des ossements qui nous sont aussi parvenus du néolithique.
Et puis, les visiteurs du musée découvrent ses vêtements et ses maladies, des maladies assez banales comme l'arthrose ou les calculs biliaires. Il avait aussi une intolérance au lactose, comme beaucoup de gens aujourd'hui encore. Ça le rend très humain et tangible.
On en sait beaucoup sur Ötzi, mais également très peu. Dans les allées du musée, Andrea Delpra, il est guide depuis 6 ans et la question qu'on lui pose le plus souvent, c'est « Qui était Ötzi ?» Selon lui, c'est ce mystère qui passionne.
On ne peut pas effectivement dire presque rien sur lui, alors on peut rester avec notre idée qu'il était un peu comme moi, il était un peu comme toi.
Ötzi a été tué alors qu'il était seul dans la montagne. Pourquoi ? Et pourquoi son meurtrier a-t-il abandonné sur place la petite hache en cuivre de sa victime, un vrai trésor à l'époque ? Enfin, pourquoi Ötzi, un homme manifestement doué de talents médicinaux, a-t-il dû quitter son village, apparemment précipitamment ? Voilà ce qui interpelle, dit Andrea Delpra.
Qui s'il y a une histoire d'injustice, qui s'il y a un talent qui a dû fuir de la société, il y a beaucoup des ingrédients de l'histoire de l'héros dans certains point de vue, c'est comme mythologique. Là.
Pour le guide philosophe de formation, Ötzi nous fait réfléchir sur nous-mêmes, les humains.
Nous avons reçu comme héritage des hommes du paléolithique, nous avons reçu de l'art, les peintures sur les roches. Pour les hommes du néolithique, nous avons reçu Ötzi, qui a été tué. Donc, un homme qui a été tué. Qu'est-ce qu'on va laisser, nous, comme héritage, hein? Qui nous avons la bombe atomique. Donc, est-ce que vous êtes sûr que nous sommes en train d'évoluer? Si on regarde avec les yeux de l'archéologie, c'est pas sûr, ça.
Et c'est en contemplant une dernière fois Ötzi que chacun peut tenter de se faire sa propre idée sur cette vaste question.
On poursuit notre voyage dans le temps en Ukraine à bord d'un très vieux train toujours en service. C'est l'un des derniers en Europe à circuler sur voie étroite. Il lui faut 4 heures pour parcourir 100 km. Sébastien Gobert a pris ce train, une curiosité technologique, mais aussi une ligne de vie pour des villages très isolés.
Est-ce que c'est le train pour Zaretchne? La question peut paraître superflue. Il n'y a qu'un train à quai. Il n'empêche, la locomotive et les deux wagons ressemblent à des petits modèles réduits de parcs d'attractions. Il est difficile de croire que c'est un train de transport régional. Et pourtant, il est très fréquenté.
Nous avons 35 places par wagon et c'est tout le temps plein. Donc ça fait 70 personnes aller, 70 retours au moins.
Il y a des fois où on transporte 100, 150 passagers.
Les contrôleuses Olena Sedorchik et Maria Konovalchuk se préparent au départ. À 6h40 du matin, il fait encore noir. Aucune lumière n'est allumée dans les wagons. Un petit poêle à charbon ne suffit pas à réchauffer les passagers. La ligne s'étire sur 106 600 km à partir de cette gare d'Antonivka. Le terminus, Zaretchne, est au nord, à moins de 5 km de la frontière biélorusse. Le train l'atteint en plus de 4 heures avec des pointes de vitesse de 35 km/h maximum. Entre les deux, 18 arrêts le long d'une voie unique, très étroite, moitié moins large quasiment que les voies de la région. Cette ligne, inaugurée en 1895, est un vestige de la révolution industrielle. C'est une des dernières en Europe.
C'est un train unique, le seul train de voyageurs à circuler sur une voie étroite. Il parcourt une très longue distance, la plus longue en Europe. Et notre région est vraiment très intéressante à découvrir.
Olena Sedorchik travaille dans les chemins de fer régionaux depuis déjà plus de 30 ans. Elle est une fan inconditionnelle des paysages qui défilent dans l'encadrement des fenêtres. Des forêts, des champs, des lacs, des rivières. Le pont qui enjambe la rivière Styr est le seul pont ferroviaire en bois en Ukraine. Encore une curiosité technique.
C'est vraiment unique. Et en plus, des passagers locaux, le train attire des touristes de l'étranger. J'en vois de plus en plus. Chaque été se tient un festival à Zaretchne. La région a beaucoup à offrir.
Au fur et à mesure que les passagers montent dans le train, les contrôleuses se déplacent dans les wagons pour vendre les billets. Leur caisse électronique détonne dans cet environnement désuet. Aux commandes de la locomotive diesel construite en 1953, l'année de la mort de Staline, le chef Mikola et son assistant Alexander Vassiliouk. Au terminus, à Zaretchne, ils dirigent leur locomotive sur une voie d'aiguillage et se préparent au voyage retour. Il est alors possible de monter à bord pour leur parler, même si leurs commentaires sont taciturnes.
Rien à signaler.
Notre travail est assez simple.
Un certain désarroi est néanmoins palpable chez les chauffeurs. Nicolas travaille sur cette ligne depuis plus de 20 ans, Alexander Vassiliouk depuis 7 ans. Il se rappelle d'une époque plus active.
On fait le trajet 3 fois par semaine. Avant, le train circulait tous les jours. Mais la deuxième locomotive est hors service depuis un an. Alors tant que celle-ci fonctionne, on continue de travailler. Après, on ne sait pas.
Ce serait donc un petit train en sursis que les chauffeurs relancent à travers la campagne après 1h40 de pause à Zaretchne. Déjà, les deux wagons sont pleins. Le jeune Sergi en a pour 3 heures de voyage jusqu'à sa destination.
On s'attend tous à ce que la ligne soit fermée tôt ou tard. Mais tant que ça dure, les gens continueront à l'utiliser. C'est pratique, c'est rapide, enfin pas très rapide. Mais je peux vous dire que certains villages sont reliés ici par des routes de pierre mal alignées. Et c'est tellement peu confortable qu'on est mieux ici.
Le nord-est de l'Ukraine est l'une des régions les plus reculées et les moins développées du pays, le plus pauvre d'Europe. Les villes restent dynamiques, mais les infrastructures ne sont pas entretenues et les campagnes se désertifient. Olena Sedorchik se rappelle d'ailleurs qu'il y avait avant 19 arrêts au lieu de 18 le long de la voie ferroviaire.
Il y avait bien un petit village, mais les derniers habitants sont morts, alors on a supprimé l'arrêt.
Pour elle, ce train sur voie étroite est bien plus qu'une curiosité technologique.
Sans ce train, deux cantons seraient complètement coupés de la civilisation. Les autobus ne peuvent pas y aller. Même les gens du coin ne s'y risquent pas. Ce train, c'est une ligne de vie. Les gens l'empruntent pour se déplacer, pour aller à l'hôpital, pour aller faire des courses. Pour toutes les questions pratiques, il n'y a que ce train.
Dans la région, pas d'usine ni d'entreprise de service. Les habitants vivent de l'agriculture, de l'argent que leurs proches envoient de l'étranger et d'une activité illégale. Le sous-sol regorge d'ambre jaune. Des groupes mystérieux pour certains criminels éventrent la forêt depuis des années pour l'en extraire. Sergui est lui-même impliqué dans ce trafic.
Tout le monde fait ça ici. C'est un travail difficile, mais c'est le seul moyen d'avoir un salaire décent.
De la porte du train qui reste ouverte pendant tout le trajet, on découvre un paysage lunaire de centaines de trous, d'arbres abattus et de souches arrachées. L'extraction de l'ambre est dénoncée depuis longtemps comme un désastre écologique, pourtant avalisé par d'importantes personnalités à Kiev. Sergui ne souhaite pas donner son nom de famille à un journaliste, mais dans le train, il exhibe ses collections d'ambre à tous et il en parle ouvertement.
Depuis le temps, on se connaît tous ici, à force d'aller et retour, c'est presque devenu un train de famille.
La contrôleuse Maria Konovalchuk se dit très heureuse de son travail. Il est presque 16h30, les premières maisons d'Andonivka apparaissent. Elle se réjouit à l'idée de rentrer chez elle. Mais elle n'a pas encore fini son travail.
Il faut encore aller au bureau, rendre les caisses, déposer l'argent, rédiger un rapport d'activité. Et ensuite, on peut enfin rentrer à la maison.
Maria Konovalchuk et Olena Sedorchik se préparent déjà à leur prochaine journée de travail. Arrivé à la gare d'Antonivka, il fait cette fois plein jour. La seconde locomotive en réparation et ses wagons inutilisés sont bien visibles. Un rappel que cette ligne peut s'arrêter à n'importe quel moment, sans solution de rechange. Et il faudrait alors bien plus que 4 heures pour desservir les campagnes environnantes.
Et nous voilà propulsés dans le futur, à Nantes, dans l'ouest de la France, sur les bords de l'Erdre. Depuis le printemps, on peut embarquer sur un tout nouveau navire à propulsion hydrogène qui circule sur la rivière. C'est une technologie propre, encore très peu répandue en France, puisque c'est le premier bateau fluvial de transport de voyageurs de ce genre, Laurent Berthaud.
Le Jules Verne II vient d'accoster près de la rive verdoyante d'un affluent de la Loire. En cette heure creuse de l'après-midi, quelques personnes seulement prennent place à bord pour une croisière minute. Pierre-François Gérard, chargé de mission à la Sémitane, les transports publics nantais.
Alors ici, on est sur la rivière Erdre. Et le service qui est assuré là, c'est une liaison inter-rive, c'est un passeur, entre un quartier habité avec des établissements divers et variés, Port-Boyer, et le campus universitaire, et l'accès à la ligne de tramway numéro 2 pour venir dans le centre de Nantes. Donc c'est vraiment un passeur entre deux rives. Donc vous voyez, le temps n'est pas très long non plus, c'est 2-3 minutes maximum. Là, on est sur un passeur à la demande, il n'y a pas d'horaire, c'est en fonction du trafic. Surtout, ça rend service aux cyclistes. Et par exemple, on a un gros trafic de postiers, parce que le centre de tri et le centre commandant sous la rive Port-Boyer, et les facteurs s'en vont en vélo de l'autre côté, côté faculté.
L'ancien bateau, mis en service il y a 20 ans, était lui aussi électrique. Le nouveau est équipé de 2 piles à combustible. Elles convertissent l'hydrogène embarqué en électricité pour les batteries et les moteurs, ne rejetant que de l'eau dans l'atmosphère, un choix dicté par l'environnement.
Il y a plein d'oiseaux ici, il y a des hérons, des canards, des poules d'eau. C'est assez bucolique, c'est une vision de Nantes surprenante. On est à 1 km du début du centre-ville. Donc c'est assez exceptionnel comme environnement. C'est une zone protégée, Natura 2000, d'où cette innovation qui tombe à pic. Le bateau électrique, à pile à combustible hydrogène, c'est-à-dire un prolongateur d'autonomie des batteries qui permet d'avoir une amplitude de 14 heures et 6 jours d'autonomie lorsque les réservoirs sont pleins d'hydrogène.
Des réservoirs à hydrogène sous pression, pas de quoi impressionner pour autant Pierre à la barre du Jules Verne ce jour-là.
Pas d'appréhension particulière parce qu'on a reçu une formation justement qui nous a présenté un peu les dangers et les problématiques liées à l'hydrogène, donc non, pas d'appréhension particulière.
Peu de différence par rapport au précédent.
Exactement, c'est-à-dire qu'au lieu de le charger tous les soirs comme on faisait en arrivant à quai, l'ancienne navette électrique, on mettait en charge le bateau, ben là du coup c'est l'hydrogène qui recharge le bateau. On va traverser du coup.
Le catamaran blanc de 10 mètres de long et 3,80 mètres de large affiche d'ailleurs clairement la couleur avec un grand logo bleu H2. Sur la partie arrière, des panneaux donnent des informations détaillées, mais ces deux passagers ne semblent pas trop au courant.
Moi c'est la première fois et ça marche très très bien.
Et vous avez remarqué que ça fonctionne à l'hydrogène ?
Ah non. On en a bu hier soir, non ?
De l'hydrogène ?
Ah non, c'était du souchène.
C'est ça, voilà. Rien à voir.
Donc j'étais pas loin.
Non, donc hydrogène, ça vous parle ou pas ?
Du hydrogène, hein, pas d'hydrogène.
Eh ben oui, c'est ça, c'est le truc à la betterave. C'est ça, non ? Comment ça s'appelle ? Ça,
c'est l'éthanol.
Ah ben voilà. Toi, tu sais tout, toi ?
Non.
Mais si.
Et puis la combustible, ça vous parle ?
Oui, mais enfin, ça me parle, mais sans plus, quoi. Je connais pas la technologie de tout ça et j'y connais pas grand-chose, quoi.
Des lacunes rapidement comblées avec le spécialiste présent à bord, bombardé de questions.
Et il se recharge où alors ? Où est-ce qu'il trouve ?
À la gare fluviale, là-bas. Mais à la rigueur, on n'a pas besoin de recharger la batterie. On le fait uniquement la nuit, à titre de précaution, mais là, ça dure même pas une heure. Alors qu'un bateau tout électrique, ça dure de 6 à 8 heures, ce qui n'est plus du tout la même...
Et le prix du coup de...
Aujourd'hui, c'est plus cher, c'est... Il fait à peu près 600 000 euros le bateau, en prototype...
Au revoir, bon après-midi.
La ville de Nantes espère bien que ce Navibus, qui accueille 80 000 voyageurs par an et 20 000 vélos, ne sera qu'un premier maillon d'une vraie filière hydrogène dans la région. Actuellement, l'hydrogène vient de l'est de la France, mais à terme, l'idée est bien de le produire localement, à partir d'énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes, mais aussi hydroliennes. N'oublions pas que Nantes n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de l'Atlantique.
Et c'est dans la province de Messine, en Sicile, que nous nous arrêtons maintenant. Comment faire redécouvrir la poésie italienne et surtout sicilienne au plus grand nombre ? Un enseignant a eu une idée originale, Cécile de Barge.
Cette voix caverneuse qui récite de la poésie sort d'un jukebox. C'est plus précisément d'un jukebox littéraire inventé par un professeur d'histoire de l'art sicilien. Mauro Capoto enseigne à Capo d'Orlando, dans la province de Messine, et pour dépoussiérer les poèmes souvent boudés par ses élèves, il a donc eu cette idée audacieuse, récupérer un jukebox des années 80, remplacer les chansons par des lectures de poésie et miser sur le côté ludique. Il suffit d'insérer une vieille pièce de 500 lires pour entendre déclamer les textes de Bufalino, Montale, Catafi et bien d'autres auteurs italiens, mais surtout siciliens, pour la plupart du 19e siècle. Le projet a été présenté lors du festival de littérature Naxos Legge et se trouve désormais dans un musée de Ficarra. L'objectif dans les prochains mois est de réussir à transporter le jukebox littéraire dans les établissements scolaires de la région pour qu'il soit utilisé par les professeurs de littérature et pour que de nouvelles poésies soient choisies par les élèves et ajoutées à la liste du jukebox.
Accent d'Europe à la réalisation, Mathias Taylor. Vous nous suivez, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur notre site internet rfi.fr. Vous regardez l'onglet émission et bien sûr ici demain à la même heure.